Nous voici réunis pour le catéchisme pour adultes. Nous entamons un nouveau cycle dans ce catéchisme, un cycle plus particulier après les grandes généralités du mystère de la foi que nous avons développé précédemment dans les 12 leçons précédentes. Nous entamons une préparation plus particulière au sacrement de la confirmation. Parmi nous, plusieurs vont recevoir ce sacrement. Eh bien, il est bon aujourd'hui de parler de Dieu, le Saint-Esprit. Lorsque nous avons traité, si l'on peut dire, du mystère de Dieu en lui-même, nous avons vu que nous croyons en un seul Dieu en trois personnes. Et lorsque nous parlons dans le credo des personnes de la Sainte Trinité, nous parlons de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit. Nous disons que le Fils est engendré du Père, alors que nous disons du Saint-Esprit qu'il procède et du Père et du Fils. Voici comment. Le mystère de Dieu le Père, c'est le mystère de l'amour qui veut se donner. Et nous avons vu à l'école de saint Thomas d'Aquin qu'il est dans la nature de l'amour de se donner, il est donc dans la nature divine de Dieu de se donner. Voilà que le Père, pour se donner, engendre le Fils. Le mot « engendrer » manifeste bien l'idée que le Fils vient du Père, c'est pour ça d'ailleurs qu'on dit qu'il est le Fils, il y a bien cette relation, mais on ne dit pas créer, et au contraire, le credo précise, il est engendré, non pas créé. Non pas créé du point de vue matériel, mais on pourrait même dire, il n'est pas entré dans le mystère du temps. Il n'entre pas dans le temps. Il est éternel. De telle sorte que le Fils vient du Père, mais il n'y a pas d'antécédence, il n'y a pas un avant où il n'y aurait eu que le Père et un après où il y aurait Dieu le Fils. Donc du coup, voilà ce grand mystère de l'éternité divine. Je rappelle que pour nous, on fractionne toujours tout. Il y a un avant, il y a un pendant, il y a un après. Et bien dans le mystère même de Dieu, dans cette éternité, eh bien il n'y a pas de succession. Donc lorsque nous disons que le Père engendre le Fils, dans notre esprit, nous imaginons un instant où il n'y aurait pas eu le Fils. Eh bien ce n'est pas le cas. Il y a toujours eu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais il y a un ordre dans la Trinité, le Père engendre Dieu le Fils. Je vous ai dit, c'est le mystère de l'amour qui se donne. Dieu le Père est comparé dans la tradition à cette plénitude fontale, à cette source qui a soif de se déverser, de se donner. Il est dans la nature de l'amour de se donner. Et bien voilà que Dieu le Père, en engendrant le Fils, présente une personne qui peut accueillir toute la démesure de cet amour qui du Père va au Fils. Le Père, Dieu le Père aime Dieu le Fils, et puisqu'il est dans la nature de l'amour de se donner, il lui donne. Il lui donne tout ce qu'il est, excepté bien sûr son être de Père, sinon il y aurait fusion. Il y en aurait un qui aurait pris la place de l'autre. Mais voilà qu'il y a cet échange de l'amour. Et l'Esprit-Saint, puisque c'est de lui que nous allons parler aujourd'hui, nous disons qu'il procède et du Père et du Fils. Et on nous précise bien que ce n'est pas une personne divine un peu moindre, puisqu'on nous précise qu'il a de même nature que Dieu et qu'il reçoit la même adoration et la même gloire. Donc, l'Esprit-Saint, où est-il dans cette communion de l'amour? Je vous ai donc dit, il y a le Père qui aime le Fils qui aime le Père et qui n'a de cesse de lui rendre tout l'amour qu'il lui a donné. Eh bien, l'Esprit-Saint, c'est l'échange de l'amour, c'est l'échange de l'amour que le Père a pour le Fils et c'est cet échange de l'amour que le Fils a pour Dieu le Père. Dans le Magnificat, la Sainte Vierge nous dit que le nom de Dieu, c'est-à-dire tout son être, c'est la sainteté. Saint est son nom. La sainteté du Père, elle irradie le Fils, et le Fils n'a de cesse également de rendre également toute cette sainteté à Dieu. L'Esprit Saint, dans cette cas de figure, on l'appelle l'Esprit de sanctification. Voilà. Alors on peut dire l'Esprit Saint, c'est l'amour, c'est vraiment l'Esprit de sanctification. Et bien voilà, on voit qu'entre le Père et le Fils, il y a cet amour qui les unit profondément, qui est une personne, Dieu, le Saint-Esprit. Pour nous-mêmes, nous avons été baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, de telle sorte que nous sommes configurés à notre Seigneur Jésus le Christ, nous devenons membres de son corps mystique qui est l'Église, nous faisons partie du corps du Christ, et lui, le Christ, est la tête de l'Église. Et l'Esprit Saint, c'est cet esprit d'adoption. Nous avons vu que dans le grand dessein de Dieu, il y a ce désir de faire de nous des fils, et bien c'est l'Esprit Saint qui est l'esprit d'adoption, qui nous fait rentrer dans l'amour qui unit le Père et le Fils. Alors parler ainsi du Père, du Fils, du Saint-Esprit, c'est assez difficile, c'est assez ardu. Eh bien prenons les Saintes Écritures pour pouvoir ainsi nous familiariser avec Dieu le Saint-Esprit. On nous dit dans le récit de création que Dieu dit, j'ai déjà eu l'occasion de dire que ce Dieu qui dit, c'est le Verbe de Dieu qui est à l'œuvre dans la création, comme si Dieu le Père pense la création, Dieu le Fils dit ce que le Père veut, et on nous dit ensuite, et Dieu vit, il y a la vision de Dieu, et Dieu vit que cela était bon. Eh bien, le Saint-Esprit, il est là, Dieu vit que cela était bon, il entre dans l'action de grâce, il jubile, parce que l'Esprit Saint, c'est l'amour, c'est la sanctification, mais c'est également cette joie. Il jubile, pourquoi ? Parce qu'il voit qu'entre ce que le Père a voulu et ce que le Fils a dit et réalisé, eh bien cela est bon. Il se réjouit de tout cela. Donc, on a donc l'Esprit Saint manifesté donc dès les premiers temps. On va nous parler également de l'Esprit qui plane sur les eaux au moment du déluge. On va avoir, bien sûr, dans le Nouveau Testament, de grandes manifestations de Dieu le Saint-Esprit. Alors, quand on ouvre ainsi l'Évangile selon saint Luc, l'Esprit Saint, on va le rencontrer au moment de l'Annonciation, au moment de la Visitation, de façon assez décisive. Nous allons fêter l'Annonciation cette semaine. 9 mois avant la naissance de notre Seigneur Jésus le Christ, il y a l'annonce de l'archange Gabriel qui vient mandaté par Dieu auprès de cette Vierge de Galilée, de Nazareth, la bienheureuse Vierge Marie. L'ange la salue, je vous salue, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, sous-entendu comme il n'est avec aucune autre créature. Et voilà que l'archange lui demande si elle accepte de devenir la mère de Dieu, de devenir la mère de Dieu dans l'ordre de la chair. Et la Sainte Vierge pose une question, comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme ? Et la réponse que va lui donner l'archange Gabriel dira, bien vous allez, l'Esprit Saint, voilà, c'est l'Esprit Saint. Par l'opération du Saint-Esprit, voilà que vous allez devenir enceinte. Ce n'est pas par une intervention d'homme, une intervention charnelle, nous dira Saint Jean dans le prologue, ce n'est pas une volonté de sang, une volonté charnelle, c'est vraiment la volonté de Dieu, et voilà qu'elle est manifestée par Dieu le Saint-Esprit qui porte en Marie Dieu le Fils, et qui va ensuite devenir homme. L'Esprit Saint demeure, l'archange lui dit qu'elle va demeurer à l'ombre du Puissant, donc du coup l'Esprit Saint va toujours accompagner la bienheureuse Vierge Marie qui est à l'ombre de Dieu le Saint-Esprit. On retrouve ce même Esprit Saint dans le mystère de la Visitation. J'ai coutume de dire que la Visitation, pour moi, devrait toujours s'écrire avec un S, parce qu'il ne s'agit pas seulement de la visite que la Vierge Marie rend à Élisabeth, sa cousine, c'est tout autant à travers le ventre de ces deux femmes enceintes, la visite du Seigneur Jésus à Saint Jean-Baptiste, mais ce qui a permis de rendre possible ces visites, c'est Dieu, le Saint-Esprit. En effet, lorsque la bienheureuse Vierge Marie entre chez Élisabeth et la salue, eh bien on nous dit voilà, que l'Esprit Saint a animé Élisabeth d'une joie très profonde. Élisabeth, elle ne reconnaît plus seulement en Marie sa cousine qui vient à son chevet, mais elle déclare « Mais quel est donc ce bonheur que vienne jusqu'à moi la mère de mon Seigneur ?» Et saint Paul, le grand docteur, de nous dire que nul ne confesse que Jésus-Christ est Seigneur sans que cela lui ait été donné par Dieu le Saint-Esprit. Nous en avons l'illustration parfaite dans le récit de la Visitation. Élisabeth ne reconnaît pas en Marie seulement sa cousine, elle confesse dans la foi que vient auprès d'elle la mère du Seigneur. Et Élisabeth est tellement animée de cette joie, qui est la caractéristique de Dieu le Saint-Esprit, hein, que en son sein, voilà que l'enfant tressaille d'allégresse. Hein, d'un ventre à l'autre, c'est le Seigneur Jésus qui se rend présent auprès de Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste tressaille parce qu'il est le précurseur. Hein, il a comme déjà envie de sortir du ventre de sa mère pour aller dans les chemins de ce monde, dans le désert de ce monde, pour annoncer qu'il faut se convertir, se préparer à la venue du Rédempteur. Donc on voit là aussi une manifestation de l'Esprit-Saint qui est reconnaissable non seulement au fait qu'il fait confesser Jésus-Christ, mais aussi qui est reconnaissable à cette joie qu'il communique. Deux autres récits dans le Nouveau Testament nous parlent avec une acuité particulière de Dieu le Saint-Esprit. C'est l'épisode tout d'abord du baptême, puis celui de la transfiguration. Au baptême, voilà que nous retrouvons le Seigneur Jésus, adulte, sur les bords du Jourdain. Nous retrouvons Saint Jean-Baptiste qui, lui, a commencé son ministère de précurseur. Il vient derrière moi, celui qui est plus fort que moi. Voilà que, au moment où le Seigneur est baptisé, la Trinité Sainte est manifestée. Hein, Dieu le Fils entre dans les eaux pour recevoir le baptême, il veut prendre sur lui le péché, il est reconnu en cela comme l'agneau de Dieu qui enlève le péché, et voilà que celui qui ne s'était jamais manifesté jusqu'alors se fait entendre, c'est la voix de Dieu le Père. Hein, dans l'incarnation, la Bienheureuse Vierge Marie s'est fait entendre, hein, elle a dit son oui. Les bergers sont venus à la crèche comme les premiers pauvres, membres du peuple d'Israël, les rois mages sont venus. Il y a eu dans les récits de l'enfance Siméon, le vieillard, la prophétesse Anne, chacun a pu se manifester, mais Dieu le Père n'a jamais rien dit. Et voilà qu'au commencement de la vie publique, la voix de Dieu le Père, hein, les cieux se déchirent, nous disent les évangélistes, et la voix se fait entendre, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. » Celui-ci est mon Fils. C'est déjà très important, le Père reconnaît qu'il est le Fils. Mais on rajoute ce qualificatif de « bien-aimé ». Et ce mot « bien-aimé » nous dit déjà le Saint-Esprit. Je vous dis, l'Esprit-Saint, c'est vraiment cet amour qui unit et le Père et le Fils. Le Père aime le Fils aime le Père. Cette réciprocité de l'amour qu'est le Saint-Esprit se retrouve dans « mon Fils », pas seulement « mon Fils bien-aimé », sous-entendu « dont je suis également bien-aimé en retour ». Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma joie, écoutez-le. Et voilà que l'Esprit-Saint est manifeste sous l'apparence corporelle. Vous relirez dans les quatre évangiles combien, avec beaucoup de précision, on ne nous fait pas comprendre que l'Esprit-Saint est une colombe. Sous l'apparence corporelle d'une colombe, voilà qu'il y avait cette colombe qui planait au-dessus du Seigneur Jésus, de telle sorte que quand Dieu le Père reconnaît que Jésus est son Fils, il dit bien « bien-aimé » puisqu'il passe par l'Esprit-Saint. Voilà que là, nous avons le mystère trinitaire qui nous est révélé, qui nous est explicité. Dieu le Père se fait entendre par cette voix. L'Esprit-Saint manifesté sous cette colombe qui plane au-dessus de Jésus. Hein, et puis ce Jésus, qui n'est pas simplement un homme, est reconnu comme le Fils de Dieu. Voilà le grand mystère de la Sainte Trinité. Ensuite, nous retrouvons ce mystère trinitaire un peu plus tard dans la vie publique du Seigneur, lorsque le Seigneur convie Saint-Pierre, Saint-Jacques et Saint-Jean sur cette haute montagne où il va être transfiguré. Pourquoi le Seigneur est transfiguré? Tout d'abord parce qu'à plusieurs reprises, il a annoncé le mystère de sa mort à ses apôtres et que ceux-ci ont eu un peu de mal à avaler une telle nouvelle. Comment ce Jésus, que nous reconnaissons qu'il est le Messie, qu'il est le Fils du Dieu vivant, peut-il nous annoncer ainsi l'échec total, la condamnation à mort, beaucoup de souffrances? Saint-Pierre dira que ce n'est pas possible, ce n'est pas pensable, et Jésus l'arrêtera en disant « Arrière, loin de moi, Satan ». Lorsque le Seigneur Jésus convie donc ses trois plus proches apôtres sur cette montagne, il est transfiguré, il leur manifeste un quelque chose de sa divinité. Mais voilà que, comme au jour du baptême, la Trinité Sainte est manifestée dans cette grande apparition de la Transfiguration. Nous l'avons médité il n'y a pas si longtemps que cela dans la liturgie de ce carême, au deuxième dimanche du temps du carême. Il y a bien sûr l'épisode dans cette vision du Seigneur Jésus avec Moïse et Élie, mais je ne m'attarde pas à cela, voilà qu'ensuite la voix de Dieu le Père se fait entendre à mesure que la nuée enveloppe le Fils et va venir comme envelopper également les apôtres. La voix de Dieu le Père se fait entendre, à nouveau, celui-ci est mon Fils bien-aimé, et l'Esprit Saint se rend manifeste sous les traits de cette nuée lumineuse qui enveloppe les apôtres eux-mêmes, qui en sont d'ailleurs, chez Saint Luc, je pense, effrayés. On voit encore là, c'est vraiment un esprit qui se manifeste. Alors, il a pris une forme corporelle comme une colombe. Eh bien là, c'est la forme de la nuée, et à Pentecôte, nous allons y venir, ça sera sous la forme de langue de feu. Vous voyez un peu la subtilité des images symboliques par lesquelles le Saint-Esprit se fait voir, si on peut dire. Ils ne prennent pas un corps comme le Seigneur Jésus. D'ailleurs, le Seigneur Jésus ne prend pas symboliquement un corps, il prend véritablement chair de la bienheureuse Vierge Marie et se fait homme. Dieu le Père se fait toujours entendre comme une voix. Dieu le Père n'est pas incarné au sens de la matière, c'est cette voix qui se fait entendre. On nous dit le ciel se déchire, parfois on peut parler aussi comme de tremblement de terre. On voit les apôtres qui sont, dans certains récits évangéliques, pris de stupeur en entendant la voix. Ils tombent comme atterrés devant une voix venant de l'au-delà, et c'est la voix de leur Créateur, de Dieu le Père. Et là on voit également donc cet Esprit Saint se manifester sous les traits de cette nuée qui prend les apôtres. C'est très intéressant de voir cela parce que lorsque la finalité de la transfiguration est de manifester, dans l'ordre de la foi, les deux natures du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus partage la nature divine avec le Père et le Saint-Esprit. C'est ensemble, si on peut dire, qu'ils sont Dieu. Ils partagent cette même nature divine. Et le Seigneur Jésus, en devenant homme, eh bien, il a deux natures. Et la nature humaine, il est pleinement homme, et la nature divine. Et la nature divine est cachée dans l'humanité du Seigneur Jésus. Lorsque saint Thomas d'Aquin, dans la Somme de théologie, commente ce grand mystère, il nous dit bien que le miracle des miracles se tient dans les dernières phrases de l'Évangile, et Jésus était là seul. Seul, c'est-à-dire sans l'appareil de sa gloire, seul, il n'y a plus la voix du Père, il n'y a plus la nuée, seul, il n'y a plus Moïse ni Élie. Mais c'est là le grand mystère de la personne de notre Seigneur Jésus le Christ dans son incarnation. C'est que sa divinité est contenue dans quelque chose qui ne peut pas la contenir, son humanité. Et voilà aussi que quand Dieu le Père s'est fait entendre, celui-ci est mon Fils bien-aimé, cette fois-ci il apparaît dans tout l'éclat de sa gloire, eh bien il y a l'Esprit Saint aussi qui est là. Bien présent. Donc voyez comment le Père, le Fils et l'Esprit Saint sont profondément unis dans un amour qui est un amour de communion. Et lorsque le Seigneur Jésus parle de Dieu son Père ou du Saint-Esprit, il y a vraiment toujours cette communion d'amour dont il parle. Il dira notamment un peu avant la Passion, je pense à saint Thomas, quand le Seigneur Jésus lui dit « Venez à ma suite ». Je suis le chemin, la vérité, la vie. Et saint Thomas lui dit, mais comment pourrions-nous te suivre? Nous ne connaissons pas le chemin. Voilà, quel est le chemin? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous cheminons ici-bas, dans la vérité qui nous est révélée, pour avoir la vie éternelle. C'est-à-dire que Dieu qui veut nous adopter, il veut que nous soyons par la grâce, ce que le Fils est par nature, le Fils de Dieu le Père. C'est ça le grand projet de Dieu. Dieu ne veut pas seulement être le Créateur, il ne veut pas être simplement même le Rédempteur, il veut quelque chose de bien davantage, il veut avoir avec nous une intimité, celle d'être uni à notre Seigneur Jésus le Christ. Lui, il est vraiment le Fils par nature de Dieu le Père, il est l'engendré. Et bien voilà que nous sommes appelés à devenir des fils adoptifs par Jésus le Christ. Nous avons à devenir par la grâce ce que le Fils est par nature, le Fils du Père. Et cet esprit d'adoption, je vous l'ai dit, c'est le Saint-Esprit. Ainsi donc, lorsque, en suivant saint Thomas, nous entendons le Seigneur nous dire qu'il est le chemin, la vérité et la vie, nous avons là vraiment ce grand mystère de notre vie chrétienne ici-bas. Et la raison pour laquelle on va recevoir le sacrement de la confirmation, c'est bien justement pour recevoir cet esprit d'adoption qui fait de nous véritablement des fils. Je vous ai dit, nous avons à devenir par la grâce. Mais comment la grâce nous est-elle communiquée après le péché et dans la nouvelle alliance? Elle va nous être communiquée par les sacrements. C'est aussi cette question que nous aurons à aborder la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'un sacrement? Hein, qu'est-ce qu'il nous communique? Eh bien voilà, il nous communique la grâce. Alors je laisse ça un instant, enfin je laisse ça plutôt pour la semaine prochaine. Nous avons dans les enseignements du Seigneur Jésus, juste avant que Saint Thomas fasse comprendre au Seigneur qu'il ne sait pas où est le chemin, le Seigneur Jésus parle souvent de Dieu son Père, ou dans les paraboles met en scène sa relation avec Dieu le Père. Hein, un père va marier son fils, etc. Je précise cela parce que les apôtres ont tellement entendu parler du Père qu'au bout d'un moment, ils disent au Seigneur Jésus, écoute Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Ils ont bien compris, à force d'entendre la prédication du Seigneur Jésus, que voir Dieu le Père, finalement, cela suffit au bonheur éternel. Et le Seigneur de répondre, qui m'a vu a vu le Père. C'est bien que dans ce mystère de communion, il y a une égalité entre les personnes divines. Dieu le Fils n'est pas moins Dieu que Dieu le Père. Dieu le Saint-Esprit n'est pas moins Dieu que le Père et le Fils. Il y a une égalité, hein, vraiment une égalité des personnes divines qui a un nom, c'est vraiment l'esprit de communion. Il n'y a pas de fusion, c'est-à-dire il n'y a pas ben, du coup le Père qui fond dans le Fils et ça nous ferait le Saint-Esprit, pas du tout. Il y a vraiment les personnes divines, mais il y a cet amour de communion dans laquelle nous sommes invités à entrer. Nous sommes également invités à aimer comme Dieu nous aime. Hein, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Cela est vrai, véritablement, d'aller jusqu'au sacrifice de soi par rapport au sacrifice de la croix. Et on verra combien la confirmation doit être en nous une grâce de résolution forte. Oui, j'aurai à suivre le Christ, y compris dans les tourments et dans les tourments de la passion, de ma passion, qui ne sera peut-être pas celle avec une croix, mais il y a vraiment une décision. On verra que par la confirmation, on devient vraiment soldat du Christ, hein, au sens où on aura à répondre devant les hommes de notre attachement à cet amour de communion qui unit le Père, le Fils et le Saint-Esprit, communion à laquelle je suis appelé à accéder en devenant fils adoptif. Je le suis par le baptême, mais je le suis également par le sacrement de la confirmation. Je vous disais, le Seigneur Jésus parle beaucoup de Dieu le Père, qui m'a vu a vu le Père. Et puis, le Seigneur, un peu avant, le Seigneur va annoncer qu'il va envoyer le défenseur, le paraclet, c'est-à-dire je vais vous envoyer l'Esprit Saint. Et à d'autres passages de l'Évangile, il dira le Père va vous envoyer l'Esprit Saint. De la sorte qu'on peut se demander, mais alors qui des deux va l'envoyer l'Esprit Saint? Est-ce que c'est Dieu le Père ou est-ce que c'est Dieu le Fils? Mais dans le credo, nous disons que l'Esprit Saint y procède et du Père et du Fils. Ça, c'est un élément important. Voilà que Jésus peut, enfin le Seigneur, deuxième personne de la Sainte Trinité, peut nous dire « Je vais vous envoyer l'Esprit Saint » parce qu'il en a le pouvoir. Et dans un autre endroit, il peut dire « Le Père va vous l'envoyer ». Pourquoi ? Parce que c'est vraiment cet amour qui procède et de l'un et de l'autre. Comment et quand l'Esprit Saint a été envoyé ? Eh bien, au jour de Pentecôte. Lorsque les apôtres apeurés après la mort du Seigneur Jésus se tiennent dans la chambre haute du Cénacle, hein, voilà que le Seigneur ressuscité va leur apparaître. Et dans un des récits, on nous dit immédiatement après sa résurrection, le Seigneur ressuscité souffle sur eux et leur envoie l'Esprit Saint. Et dans d'autres récits évangéliques, on nous dira que c'est après l'ascension du Seigneur Jésus que l'Esprit Saint communique l'Esprit Saint aux apôtres. Et le Seigneur donne cette indication, l'Esprit Saint vous conduira vers la vérité tout entière. Voilà aussi que cet esprit, on a vu esprit de sanctification, esprit d'amour, c'est aussi cet esprit de vérité. Il vous conduira vers la vérité tout entière. Voilà comment et pourquoi les apôtres reçoivent la force de Dieu le Saint-Esprit. On verra que dans le sacrement de la confirmation, il y a vraiment ce courage d'aller annoncer la foi, courage qui envahit les apôtres qui jusqu'alors étaient enfermés de peur d'être aussi conduits à l'abattoir du bois de la croix, à l'humiliation face au peuple. Et bien voilà qu'ils ont cette force qui les fait sortir, qui les fait presque prendre pour des gens certains qui ont bu, certains disent mais ils sont complètement ivres, et voilà aussi que les apôtres sont capables de parler dans toutes les langues. C'est un don qui leur est donné. Pourquoi ? Parce que Pentecôte, c'est le contre-pied de la tour de Babel. À Babel, c'est l'humanité qui parle une même langue et qui a qu'un seul projet, faire une tour pour pouvoir accéder au ciel à la seule force de ses bras. Voilà que Dieu confond les langages. C'est le premier système totalitaire qui s'était mis en place. Et ce n'est pas le dernier, malheureusement. Et voilà que à partir de Pentecôte, eh bien, l'Esprit Saint, hein, qui se communique véritablement aux apôtres, eh bien, leur permet de parler dans toutes les langues. Et l'Esprit Saint, comment s'est-il manifesté ? Il s'est manifesté, c'est aussi une forme subtile, comme sous la forme de langue de feu. Dans les Actes des Apôtres, on nous parlera du souffle du Saint-Esprit. Vous voyez, dans chacune des images, c'est quelque chose toujours de subtil. Il y a le vent, il y a le feu, il y a l'oiseau, il y a la nuée. C'est quelque chose comme ça, c'est le Saint-Esprit qui se manifeste. Et donc c'est lui que nous recevons, non seulement dans le sacrement du baptême, mais surtout dont nous confirmons la présence en notre âme. Hein, l'Esprit Saint, nous dit Saint Paul, il vient prier en nous, car nous ne savons pas prier comme il faut, et nous en faisons chacun l'expérience de la pauvreté de notre prière, quel mot utiliser, que dire, quoi dire, ou encore... Hein, le Seigneur Jésus nous met en garde. Lorsque vous serez conduits vers les tribunaux ou qu'on vous demandera de rendre témoignage de votre foi, ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire. L'Esprit Saint vous le donnera sur le moment. Eh bien voilà, c'est l'Esprit Saint qui vient prier en nous, d'où l'importance de commencer eh bien, nos temps de prière par une invocation à l'Esprit Saint. C'est lui qui vient au secours de notre faiblesse pour nous apprendre à prier. C'est lui, nous dit Saint Paul, qui nous fait que nous reconnaissons que Jésus est le Christ, c'est lui encore, nous dit Saint Paul, qui, par des cris inexprimables, nous fait crier « Abba, Père ». Vous voyez l'Esprit Saint, l'Esprit d'adoption, il nous fait entrer dans cette relation qui unit le Père et le Fils en nous faisant appeler Dieu « Abba ». Et « Abba », ça signifie « Papa » au sens le plus intime, au sens le plus familial. Voilà ce à quoi nous sommes appelés par cet Esprit Saint dont nous allons cesser, en ces semaines qui viennent, eh bien, de l'invoquer, de lui demander de venir à notre aide dans nos prières, à venir nous aider à avancer vers la vérité tout entière, à venir nous aider à nous éclairer les mystères de Dieu. Puis nous avons également recours à la bienveillance de la Vierge Marie, elle qui reste sous la puissance de l'Esprit Saint.